demeure dans la vérité. Parce que partout, vous allez remarquer, partout dans les textes eschatologiques, les textes qui parlent de la fin des temps, le mensonge est mentionné. Jean, dans l'Apocalypse, parle même d'un grand faux prophète. Et tout à l'heure, on va voir que Paul avertit Timothée que dans les derniers temps, les gens vont rejeter la vérité. En plus, en étudiant le passage, de la semaine passée dans Matthieu 24, on se trouvait dans ce chapitre-là, qu'on a abordé la semaine dernière, Jésus parle des temps de la fin et ça m'a frappé de voir que ça revenait constamment l'idée des faux prophètes, l'idée du mensonge. Quand les disciples demandent à Jésus, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et la première chose que Jésus va dire, c'est faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 11, après avoir parlé des guerres, des persécutions, ce qu'on a vu la semaine passée, Jésus va dire, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 23, encore une fois, après avoir parlé des grandes détresses, de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux. Par trois fois dans le chapitre 24, on voit que Jésus mentionne l'idée des faux prophètes, des prophètes de mensonges qui égarent et qui trompent. C'est comme si Jésus voulait nous dire à travers tous les événements qui vont prendre place, à travers même l'histoire de l'Église, il va toujours y avoir des faux prophètes, du mensonge. Des gens ou des systèmes de croyances qui vendent n'importe quoi, qui te promettent toutes sortes de choses, mais qui, au bout du compte, te disent des mensonges et te déçoivent. En levant la main, qui ici connaît Boutique TVA? N'aie pas peur, c'était ça le message de la semaine passée. N'aie pas honte, lève ta main si tu connais Boutique TVA. Génial. Je sais qu'il y en a qui lèvent pas la main, pareil. Non, mais Boutique TVA, hein, c'était merveilleux. Moi et ma sœur, je me rappelle encore, les samedis, des fois, on ouvrait la télé et là, on se pluguait sur Boutique TVA, on trouvait ça délicieux. C'était tellement drôle, c'était tellement absurde. Tu voyais là, que les produits, là, ils en mettaient pas mal, ils en beurraient pas mal autour, là. Et tu savais, tu avais comme un soupçon que si tu commandais, si quelqu'un a déjà commandé quelque chose là-bas, vous viendrez me voir à la fin, on en parlera, vous me direz c'est quoi votre expérience. Mais tu avais comme un petit soupçon que peut-être que ce que tu allais recevoir par la poste, ça allait peut-être pas être la réalité, en tout cas ce qu'il te présentait. La réalité va être vraiment divergée de ce qu'il te présentait, hein, avec tout le flafa et les jolies dames, on a les photos. Hey, quand je faisais des recherches pour ça, ça me rappelait des souvenirs, je trouvais ça vraiment magnifique. Mais les conséquences d'un mauvais achat, c'est pas plus grave que ça, mais ça illustre bien quand même la déception qui peut prendre place et le mensonge qui vient te décevoir. Quand tu croyais que ça allait te nourrir, ça comble pas ton vide intérieur. Quand tu pensais que ça allait être bon, mais que finalement ça fait pas de sens ou que ça te détruit même carrément. Et que l'Église ait toujours été confrontée à des faux prophètes, des fausses doctrines, des croyances qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. On ne devrait pas être surpris, hein, parce que Jésus appelle Satan son ennemi et l'ennemi de l'Église, notre ennemi à nous aussi, le père du mensonge. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y avait pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur, il est le père du mensonge. Ici, on parle de Satan. C'est le père du mensonge. Donc, c'est normal que ce soit la stratégie que l'ennemi emploie. Et selon le principe des douleurs de l'accouchement qu'on a vu la semaine dernière, hein, plus on va approcher de la fin, plus les douleurs vont se rapprocher, plus ça va être douloureux, plus ça va être fréquent, plus ça va être intense, plus ça va être rapproché. Donc, attendons-nous à ce que le mensonge prolifère de plus en plus dans la fin des temps. Et non seulement ça, que ça en égare aussi une multitude, c'est ce que Jésus dit. Ça veut dire que c'est normal que la vérité soit à contre-courant de la multitude, de la masse. Et déjà, on le sait, là, ça prend pas beaucoup d'observations pour voir qu'il existe plusieurs croyances, hein, pour expliquer comment le monde fonctionne, pour donner du sens à l'existence humaine, pour répondre aux grandes questions existentielles aussi, pour assouvir un vide peut-être aussi. Mais à l'inverse de la société postmoderne qui croit que toute vérité est bonne, hein, si c'est bon pour toi, ben c'est vrai. Ce qui est vrai pour moi, elle n'est pas nécessairement pour toi, mais le chrétien, en fait, lui, il croit en une seule vérité. Une seule vérité. Il ne peut pas avoir, il peut pas avoir 10 000 divinités pour mon voisin, puis un seul Dieu pour moi, c'est impossible, ça ne fait pas de sens. La vérité existe. Et c'est Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Attention de ne pas être égaré ou influencé par quelqu'un, par une pensée, par une idéologie, par un système de croyances qui te ment. Tu dois être capable de discerner ce qui peut être un mensonge. Et c'est pas nécessairement facile parce que souvent, le mensonge va être proche de la vérité. Ça va être un alliage ça va s'entremêler un peu avec la vérité. Et avant de regarder comment est-ce qu'on demeure dans la vérité, près de Jésus, notre Sauveur, notre espérance, je veux t'aider à dévoiler le mensonge qui se cache derrière souvent des apparences de vérité. Okay, donc, on va dévoiler 3 choses derrière lesquelles le mensonge se cache parfois. Mais avant, on va prier. Donc, accompagne-moi par la prière. Fermons nos yeux, puis demandons à Jésus qui vient nous parler ce matin. Seigneur, tu es le bienvenu. Viens parler à nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Viens dévoiler les mensonges dans nos cœurs, dans nos esprits. Viens nous aider à tenir ferme dans ta vérité ce matin. Viens nous parler par ta parole qui est la vérité, Seigneur. Viens prendre toute la place dans nos cœurs. On se soumet à toi, à ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Amen. Premièrement, parfois le mensonge a des apparences de piété. Paul dit ceci à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, bon, il y en a une couple, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. On s'entend que ça ressemble à notre société actuelle. Il continue, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Si l'amour pour Dieu est la source de ta piété, de ton engagement, par exemple à prier, à venir à l'église, à lire la parole, c'est merveilleux, c'est génial. Ça ne veut pas dire que derrière toute piété se cache un mensonge. Ça veut dire que devant la piété, c'est pas nécessairement la vérité qui se cache, parce que c'est ce que dit Paul ici, l'apparence de la piété, mais en fait, il y a un mensonge derrière. Certains d'entre vous, vous venez d'un milieu où pour avoir la faveur de Dieu, pour gagner ta place au ciel, tu crois que tu dois faire des bonnes œuvres. Alors que la parole de Dieu dit le contraire. Elle nous dit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu comme un don gratuit. Et que c'est cet amour et cette grâce qui nous poussent ensuite à faire des bonnes œuvres pour Dieu. Attention à ne pas renier la force de la piété, comme dit l'apôtre Paul. Ce qui fait la force de la piété, c'est la grâce de Dieu pour nous et l'amour qu'on a pour lui par la suite. Derrière aussi des valeurs hein, qui nous semblent pieuses peuvent se cacher parfois un mensonge. Derrière l'emphase que la société met sur la tolérance, la liberté, la justice, des valeurs qui sont bonnes à la base, mais c'est quoi la base, hein? Il y a un mensonge que... Il se cache un mensonge si tu enlèves Dieu de l'équation, si tu écartes la parole de Dieu. Parce que tu n'as plus de base solide pour définir cette liberté-là. Tu n'as plus de base solide pour savoir de qui est-ce qu'on doit défendre les droits, pour savoir qu'est-ce qu'on doit tolérer et qu'est-ce qu'on ne doit pas tolérer selon la parole de Dieu. Un autre exemple de piété qui cache un mensonge, c'est évidemment tous les systèmes de croyances qui n'annoncent pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et là, on parle des autres religions, on parle des philosophies comme l'athéisme, les mouvements ésotériques comme le Nouvel Âge, qui ont l'apparence de la piété, hein, parce que on pose plein de gestes, on est vraiment pieux finalement, on est discipliné, mais qui évacue la vérité de l'équation, qui en renie ce qui en fait la force. Et avant d'être pasteur, dans mon cheminement entre ma courte carrière en enseignement et le pastorat, j'ai été cosméticienne pendant 3 ans dans une belle pharmacie avec une belle équipe. Et puis ce que j'aimais, une de mes forces et une des choses que je préfère faire dans la vie, c'est apprendre. J'aime apprendre. Ce que j'aimais donc, c'est que souvent, ils nous envoyaient à Québec et on pouvait assister à des conférences et on apprenait des choses sur les produits, sur des choses scientifiques aussi, un peu sur l'épiderme, sur la peau, etc. Et on repartait avec un petit sac surprise aussi. Ça, j'avoue que c'était quand même agréable. Un sac avec des produits gratuits, c'était génial. Donc, ça jouait un peu sur le plaisir. Mais je me rappelle une fois, il y avait une conférencière qui parlait de sa compagnie. Elle disait comme quoi... Elle voulait avoir des bonnes valeurs pour sa compagnie, des valeurs de bonté, de compassion. Puis, elle se rappelait que ces valeurs-là venaient des sœurs religieuses avec qui elle était quand elle était toute petite. Mais elle ne croyait pas en Dieu, là. Donc, complètement athée, mais souhaitait quand même prôner ces valeurs-là. Et ça m'a troublée. Je me suis dit, OK, d'abord, le christianisme, est-ce qu'on a vraiment besoin de Jésus? C'est vraiment venu me chercher. Je me suis dit... Tu sais, ça a l'air beau son message. On a-tu besoin de Jésus? Oui, oui, on a besoin de Jésus. L'apparence de la piété, en renierant ce qui en fait la force, qui fait la force de ces valeurs-là, c'est Christ, c'est Jésus, c'est lui qui est à la base de tout ce qui est bon sur la terre. Oui, on a besoin de Jésus. Oui, on a besoin de Jésus, même si ça a l'air pieux. Et je comparais ça à une espèce de gros chocolat de Pâques, OK? Imagine, genre, le plus beau chocolat de Pâques que tu as jamais vu, un beau gros lapin à la pharmacie, et c'est lui que tu spots, là. Tu t'approches, il est magnifique, tu sais, les grands, là, le plus gros de la pharmacie. Tu t'approches, et là, tu le prends dans tes mains, hop, hop, hop! C'est pas si lourd que ça, finalement, cette histoire-là. Et là, ta grande question, la question qu'on se pose tous, 5 kg, c'est-tu plein ou c'est vide en dedans? Hein? On n'est pas la seule à me poser cette question-là. Et t'arrives chez toi... T'ouvres ton lapin, c'est vide ou c'est plein en dedans? C'est vide, hein? La pharmacie, bon, c'est ça. Donc, ton chocolat, il est vide. Il était très, très beau à l'extérieur, mais il est rempli de vide. Si Dieu n'est pas au centre de ta piété, de ton adoration, c'est vide à l'intérieur parce qu'il y a juste Dieu qui peut combler ton vide intérieur. Donc, sachons que le mensonge peut avoir des apparences de piété. Il peut aussi avoir des apparences de ce qui est agréable, et c'est souvent le cas. Encore dans Timothée, Paul dit « Un temps viendra », et je crois qu'on est dans ces temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'ai même pas de commentaire à quel point ça décrit pour moi ce que je vois actuellement dans ce qui prend place dans la société en ce moment. Je crois que ce temps est venu où les hommes et les femmes ne supportent plus la sainte doctrine et qui préfèrent la remplacer par des choses qui font du bien finalement, qui semblent faire du bien. Sois qui tu veux, fais ce que tu veux avec ton corps, aie les relations que tu veux, le genre de famille que tu veux, en autant que ce soit agréable pour toi. Et il n'y a plus de balise parce que les gens, ils veulent plus se faire imposer de vérité. Ils préfèrent se construire un système de croyances qui ne vient pas déranger leurs désirs et leurs pulsions. Et ça s'appelle le péché, hein, et ça se cache vraiment souvent derrière ce qui te semble agréable. Le sexe en dehors du mariage, la consommation de biens, on est dans une société de consommation, attention, matérialiste. La consommation de substances, la consommation démesurée d'épisodes Netflix, de jeux vidéo. Sur le coup, là, ça te semble agréable, ça semble combler quelque chose en dedans. Mais le mensonge, c'est de croire que, justement, tu vas être comblé par ça. C'est juste du vide comme notre chocolat. Et la déception est tellement grande. La déception est grande et même parfois le regret, malheureusement. Et si tu habites sur cette terre, c'est certain, OK, chrétien, pas chrétien, c'est certain que tu es influencé par cette façon de penser, qu'on devrait se laisser conduire et prendre nos décisions sur la seule base de ce qui est agréable pour nous. On est dans une société comme ça. On a été éduqués comme ça. Regardez ce que dit Paul. Ils donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. En d'autres termes, là, le monde va lui-même ériger un système de croyances, de valeurs qui lui plaît et va tout faire pour véhiculer son message, pour qu'il soit entendu de tous. C'est verbalisé dans les médias, dans les émissions, dans la législation, par les lois, dans l'éducation, avec les cours qui sont offerts à l'école. Et là, je suis pas en train de démoniser toute la culture, pas du tout. Je suis moi-même consommatrice d'émissions de télévision, je suis abonnée à Netflix, je suis pas contre l'enseignement, j'étais enseignante. C'est pas ça, c'est d'avoir de la sagesse finalement, d'avoir de la sagesse, savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Tu dois être conscient en tant que chrétien qu'il y a un système antichrist qui se cache derrière le monde qui te dit que c'est agréable en fait. Jean, dans sa première lettre, va dire « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Est-ce qu'on parle de mon prochain là-dedans? N'aimez pas le monde. Non. Parce que Jésus nous demande d'aimer notre prochain de tout notre cœur. Ici, on parle du monde, l'espèce de système de croyance anti-Christ. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, et là, il nous le décrit, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Wow. Laisse-moi te dire que la chose la plus agréable au monde, c'est la présence de Dieu, et c'est faire la volonté de Dieu. Savoir que tu marches selon la vérité. Et ça, c'est pas vide, c'est pas vain, c'est éternel. Encore une fois, ce qui est agréable, c'est pas nécessairement un mensonge. La présence de Dieu nous indique justement, c'est tellement bon, c'est tellement agréable, c'est tellement le fun d'être en église. On n'est pas obligé d'être tout piteux de même puis dire non, faut pas que ce soit le fun. Pas du tout. C'est vraiment pas ça le point. Et Dieu a fait des beaux cadeaux à l'humanité. Il faut en profiter. C'est génial. La nourriture, la nature, la sexualité, la musique, l'art. Tout ça, c'est bon. C'est bon. Mais souvent, l'ennemi s'en sert, il se sert des choses qui sont bonnes à la base, il tord le sens ou il les amène à l'excès. Et je me rappellerai toujours cet épisode, j'étais dans un voyage scolaire à New York, et dans toutes les grandes villes, on a un Chinatown, OK? Chinatown. Et j'avais de l'argent de poche aussi, donc j'étais bien contente de pouvoir aller dans le Chinatown et rentrer dans les boutiques. Et je suis tombée sur le parfum que je portais. Il m'en restait plus, donc ça tombait vraiment bien. Donc, j'arrive dans la boutique et je vois ce parfum Curious de Britney Spears. Oh oui, on était à une autre époque. C'est génial. Ceux qui sont nés dans les années 90 comprennent. Mais bref, donc, ce beau parfum-là. Et puis, j'étais vraiment contente. Il était pas cher en plus, puis c'était le gros format. Ben, coudonc. Fait que je l'ai acheté, on s'entend. Fait que je repars avec mon parfum, avec mes amis aussi. On marche dans la rue, puis on commence à regarder nos achats. Fait que j'ouvre mon parfum, je le sens, ah, il sent pas comme, il sent bizarre un peu, il sent pas tout à fait comme mon parfum que j'ai à la maison finalement. OK, je commence à regarder la boîte, je regarde, elle ressemblait vraiment à celui-là que j'avais déjà acheté, mais ce n'était pas Curious, c'était Curious avec un K. Oh là là, j'ai eu la première expérience de contrefaçon de Chinatown, c'était merveilleux, donc j'ai appris de mes leçons depuis. Et pauvre petite de moi, je suis même allée jusqu'à la boutique, j'ai essayé de me faire rembourser avec mon anglais un peu d'une fille de 15 ans. No, mister, it is not the right perfume. Mais tu sais, j'avais aucune chance, là, c'était clair, c'était naïf un peu, mais regarde, faut passer par là dans la vie. Et puis donc, j'ai pas pu me faire rembourser évidemment mon parfum. Donc j'ai été pognée avec un parfum cheap pendant vraiment longtemps. Mais alors que l'ennemi veut essayer de te passer son stock pas cher de contrefaçon, Dieu a pour toi la vraie version du parfum. La vraie version du bonheur, la vraie version de la sexualité, la vraie version du mariage. Et même si sur le coup, des fois, ça a l'air moins agréable que le péché. Je le comprends, ça. Tu regretteras jamais. Tu seras jamais déçu d'avoir fait la volonté de Dieu. Et ça, je te le garantis. Et Chinatown ne peut rien garantir, mais Dieu peut te garantir que jamais tu vas regretter d'être dans sa présence. Amen. Avant de passer au deuxième point sur la vérité, dévoilons finalement le mensonge qui se cache derrière l'apparence de la puissance. De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, quand même. Et quand j'ai lu ça, ça me fait penser tout de suite au mouvement Nouvel Âge. Hein. Il y a des choses là-dedans qui fonctionnent vraiment. Parce que c'est des sciences occultes. Il y a une puissance derrière ça. Et aujourd'hui, en plus, c'est tellement banalisé, c'est tellement beau, tout est tellement rendu beau, des belles cartes, des beaux cristaux. C'est vraiment accessible. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu, et dans le reste de la Bible, Dieu interdit la sorcellerie et la magie. C'est clair, c'est partout dans la Bible. Oups, excusez. Aussi, dans les temps de la fin, on peut penser à une puissance politique peut-être, à une puissance scientifique même. Certains pourraient voir dans un leader mondial qui apporte des solutions aux problèmes de l'humanité, peut-être un sauveur. Certains pourraient voir les avancées scientifiques carrément comme un miracle. Et on voit aussi passer toutes sortes de choses sur Internet, hein? Même dans le milieu chrétien, des conférenciers, des gens remplis de puissance. Peut-être même qu'ils font des miracles. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a une puissance que c'est vrai, il faut faire attention. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'on voit circuler sur Internet. Faites attention, Jésus nous demande, il nous dit, je vous ai prévenu qu'il allait avoir des faux prophètes. 2 Corinthiens 11, 13, 15, et c'était même dès le moment, dès l'Église primitive, en fait, il y avait aussi des faux prophètes. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Et le but, c'est pas de soupçonner tout le monde, mais c'est d'être vigilant, d'être conscient de ce que Jésus nous a prévenu finalement. C'est pour ça aussi que ton église locale, elle est importante. Parce que tes pasteurs, Julien et moi, là, on a une redevabilité envers toi, comparativement à Johnny Boy qui fait des vidéos YouTube là, dans son sous-sol. Lui, il peut dire n'importe quoi, il n'y a personne qui va venir lui dire « Wow, là, c'est pas vrai ce que tu dis. » Okay? C'est pour ça que c'est important de s'attacher à une église locale, de faire confiance aux autorités qui ont été placées. Et là, la grande question, c'est « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour discerner le vrai du faux? » Déjà, premièrement, Julien et moi, on est toujours disponibles si jamais OK, ça, c'est-tu correct? Est-ce que c'est fondé sur la parole, etc.? On est vraiment disponibles. Mais il n'y a pas juste du mauvais hein, sur Internet, donc profitons-en. Il faut juste avoir un discernement. Et donc, comment on fait pour discerner? La réponse, c'est toi, demeure dans la vérité. Demeure dans la vérité. Quant à toi, c'est Paul qui dit ça, quant à toi, après avoir exposé tout ce qui allait se passer pendant les temps de la fin, quant à toi, en parlant à Timothée, tiens ferme, demeure, dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, comme vrai, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toutes bonnes œuvres. Quant à toi, demeure dans la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Libre. Libre du péché, libre du mensonge, libre de la culpabilité, libre des lois que tu t'imposes. Chaque mensonge, en fait, peut être dévoilé par la parole de Dieu. Parce que sa parole est vérité, sa parole, c'est la vérité. Mets à l'épreuve de la parole tes décisions, tes choix, tes pensées, tes fréquentations. Si tu es devant quelque chose pour reprendre les éléments qu'on a vus tantôt, si tu es devant quelque chose qui te semble pieux, ben mets-le à peut-être une règle que tu t'imposes. Mets-le à l'épreuve de la parole. Demande-toi si c'est biblique. Si tu es devant quelque chose qui a l'air agréable, demande-toi si la parole de Dieu te demande de t'en abstenir ou non. Si tu entends des pasteurs prêcher avec puissance et miracles sur Internet, c'est bien, mais demande-toi s'ils prêchent le message de l'Évangile. Et je vais même aller plus loin. Si tu nous entends prêcher, Julien et moi, le dimanche, demande-toi si c'est la parole de Dieu. Il faut que vous soyez en mesure de juger si c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et ça va être impossible pour toi de discerner le mensonge dans le monde si tu ne sais pas ce qu'est la vérité? Dans les derniers temps, tiens ferme, toi, demeure dans la parole de vérité, en la lisant et en la mettant en pratique. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, OK? Un scoop, on pourrait même dire. Vous avez jamais entendu ça. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mais je vais le dire quand même. Jésus est vivant. Jésus est vivant et Jésus est une personne. Jésus est vivant et il est une personne. Comment est-ce qu'on entretient une relation avec une personne? On passe du temps avec elle. Faut pas penser qu'avec Dieu, c'est différent. C'est vraiment important. Si tu te fies seulement sur le 30 minutes de prédication du dimanche matin pour entretenir ta relation avec Jésus, t'as juste dans tes mains le parfum cheap de Chinatown. Alors que Dieu veut t'offrir le parfum véritable de sa présence et se révéler à toi personnellement. Il veut te révéler son caractère, son amour, sa fidélité, ses commandements, ses promesses, sa volonté pour ta vie, son plan pour l'humanité, à travers sa parole de vérité. C'est comme ça qu'il nous parle. Si tu te fies sur le dimanche seulement pour être en relation avec Dieu, et c'est déjà bien, merci d'être là, merci pour ta fidélité, c'est génial. Ça te nourrit, c'est clair, c'est parfait, mais ça te nourrit aussi seulement par soluté. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu te nourris de la parole, t'en fais ton pain quotidien ou est-ce que tu es sursoluté ce matin? Juste par intraveineuse, un petit, parce que tu n'es pas capable, tu es même sur respirateur artificiel. Et je sais que c'est pas la première fois que je parle de la parole, de l'importance de la lire, et désolée pour vous, ou pas désolée, mais c'est pas la dernière fois que je vais en parler non plus. Concrètement, pour t'aider à demeurer dans la vérité de la parole, je veux te donner 3 conseils très pratiques qui vont t'aider justement à développer une routine de lecture de la parole et à demeurer dans la parole de Dieu. Premièrement, trouve-toi une Bible qui te convient. Toutes sortes de Bibles existent, OK? C'est génial, c'est fou, c'est pas les outils, c'est ça que j'ai réalisé quand je préparais mon message. C'est pas les outils qui manquent, OK? C'est nous, il faut qu'on veuille. C'est pas les outils qui manquent. Trouve-toi une Bible qui te convient, OK? La parole de Dieu, elle ne change pas, c'est le même message. Faut faire attention, je suis pas en train de dire qu'il y a des Bibles différentes puis avec des messages différents. Non, le texte, c'est le même. Parfois, je sais qu'il y en a, vous avez des difficultés de lecture. Il y a des traductions qui existent qui sont plus simples, des mots utilisés qui sont plus simples. Le message change pas, la parole change pas, c'est juste un mot, une traduction qui est avec des mots moins élaborés qui te permettent de mieux comprendre le sens des mots plus familiers. Si tu es démotivé aussi, tu peux avoir ce genre de Bible-là. C'est une Bible magazine qu'on appelle, encore une fois, même message à l'intérieur. Mais ça motive peut-être d'avoir des belles images, d'avoir l'impression de lire un magazine. Pourquoi pas? Il y a toutes sortes de Bibles qui existent, une Bible pour les femmes même. Pourquoi pas? Avec des pensées spécifiquement sur des sujets, des préoccupations pour les femmes. Même message, mais une Bible différente. Il y a aussi des Bibles d'études, et ça, je recommande à tout le monde. Souvent, les gens pensent que la Bible d'études, c'est pour ceux qui veulent, pour les érudits. Au contraire, c'est pour nous aider à comprendre. Donc, si tu as de la misère, achète-toi une Bible d'études. Il y a des versets, des commentaires qui t'expliquent ce que tu lis. C'est génial et qui t'aident à les mettre en application. Ça prend une Bible d'études de nos jours. Pourquoi s'en passer? C'est vraiment le plus bel investissement que tu pourras jamais faire. Et si tu t'achètes une Bible, là, tu vas trouver ça précieux. Tu vas t'attacher à la parole de Dieu. Ça va te motiver à la lire. Deuxièmement, trouve-toi un moment dans la journée. Je conseille fortement le matin. Et moi, quand j'ai un moment donné, faites ça le matin. Ça a tout changé dans ma discipline. Donc, trouve-toi un moment et puis ça te permet de vraiment rentrer dans une routine finalement. C'est comme l'exercice... Faut comme qu'on se fixe des moments puis qu'on le fasse. Tout le temps, le même moment, c'est l'idéal. Ça va t'aider vraiment à créer des habitudes. Et troisièmement, suis un plan de lecture. Donc, lire la parole juste demain ou au hasard, ben c'est bien. C'est déjà un bon début. Mais si tu veux aller plus loin, t'en nourrir comme un pain quotidien, il faut que tu suives un plan de la parole, un plan de lecture de la parole. Donc, lire les livres systématiquement pour te permettre de comprendre toute la trame narrative. Et ça se trouve partout, sur Internet, l'application, la Bible, c'est génial. Et ça te motive en plus, tu fais un petit crochet pour dire que tu l'as lu. C'est-tu pas merveilleux? En tout cas, moi, je trouve ça vraiment motivant. Et je veux terminer ce point en vous lisant le psaume 1 qui est magnifique. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, en compagnie du mensonge, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la vérité, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Moi, je veux être cet arbre. Je veux être cet arbre. » En terminant, je vais demander aussi aux musiciens de venir me rejoindre. Devant le mensonge qui va prendre de plus en plus de place dans le monde, t'es appelé non seulement à demeurer dans la vérité de la parole, mais aussi dans la parole des vérités. Jean commence son évangile en disant que Jésus est la parole. Et Jésus va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus non seulement détient la vérité et nous la révèle, mais qu'il est la vérité. Et demeurer dans la vérité, demeurer en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'attacher à lui, entretenir une relation avec lui. Par la lecture de la parole, justement, par la prière, par le fait d'obéir à ses commandements. Et je sais que c'est tout un défi, vraiment. C'est pas toujours facile de lui obéir, de lire notre parole. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. C'est fondamental qu'on comprenne, OK, qu'on n'est pas seulement sauvé par sa grâce, mais qu'on vit aussi chaque jour par la grâce de Dieu, qu'on est sanctifié par sa grâce. Jésus nous sauve pas, puis après, il nous dit, ben débrouille-toi avec le reste. Arrange-toi tout seul. Non, il nous a promis sa présence par son esprit à tous les jours. Tu as besoin de la grâce de Dieu à chaque jour pour t'aider à demeurer dans sa parole, à lui obéir. Et comme le psaume 1, Jésus va lui aussi utiliser l'image d'un arbre. En fait, il parle d'une vigne ici. C'est moi qui suis le vrai cep, la vraie vigne. Et mon père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, la branche, le sarment, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow! Ça ne peut pas être plus clair. Sans Christ, on ne peut rien faire. C'est lui qui produit le fruit en nous et nous, on a la responsabilité de rester attachés à lui, en faisant de lui notre priorité. Et par sa grâce, si tu fais de lui ta priorité, si ton cœur s'attache à lui, il va t'aider à le désirer encore plus. Il va t'aider à vouloir lire sa parole, à passer du temps dans sa présence. Savais-tu que chaque être humain s'attache à un arbre? Chaque personne s'attache à quelque chose qui va lui donner peut-être une raison de vivre ou quelque chose du genre, une ambition quelconque, une carrière, une relation, une idéologie, une dépendance. Mais il y a un seul arbre dans le monde qui est vrai, c'est Jésus. Jésus qui dit qu'il est le vrai, la vraie vigne, le vrai cep. Tout le reste n'est que mensonge. Si tu t'attaches à un autre arbre que Christ, tu vas trouver la déception, le regret. Et ce à quoi tu t'attaches va déterminer le fruit qui va être produit. Quel fruit veux-tu porter dans ta vie? Un fruit en plastique, tu sais, dans nos beaux pots, là, sur nos tables, les petits fruits en plastique qui ont l'air vrais de loin et même bons, mais de proche sont remplis de vide. Ou est-ce que tu veux porter un fruit véritable et éternel en t'attachant à la seule vraie vigne, Jésus-Christ? Porter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. À quel arbre es-tu attaché ce matin? Et c'est incroyable parce que ça a été le premier péché de l'humanité, s'attacher à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Parce qu'Adam et Ève ont choisi l'arbre de la désobéissance, l'arbre de l'indépendance en mangeant le fruit que Dieu avait défendu. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté les mensonges de Satan qui les tentait. Si tu veux résister dans les derniers jours, alors que le mensonge prolifère, tu dois demeurer dans la vérité de la parole et dans la parole de vérité qui est Jésus-Christ. En conclusion, ça vaut la peine de persévérer dans la vérité parce qu'un jour, Dieu va mettre un terme au mensonge. C'est notre espérance. Dans l'Apocalypse, Jésus nous parle d'un autre arbre. Pas celui qui va servir à la désobéissance de l'homme, mais à la guérison des nations. Oh, que c'est beau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve, se trouverait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, c'est Jésus. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, on l'a chanté ce matin. Ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront de siècle en siècle. Wow. Il me dit, Jésus, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui demeure dans la vérité. La parole de Dieu est digne de confiance et vraie. Heureux celui qui demeure en Christ. Parce qu'on a l'espérance qu'un jour, on va régner dans un monde de vérité, de justice et d'amour. Amen. Oh, c'est extraordinaire.